Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 23 octobre. Aujourd'hui, tempête Benjamin, ou Benjamin, je ne sais pas comment il faut dire, oblige. On va parler des phénomènes météo extrêmes et violents, et on va s'intéresser un petit peu justement à la météorologie, à la manière qu'elle pourra prévoir ou pas ces événements au fur et à mesure que le changement climatique, ça on le sait, va augmenter leur fréquence. On parlera aussi du PLF 2026, comme on dit, donc le nouveau budget qui est en discussion, avec certaines des mesures justement qui s'en prennent aux classes sociales les plus défavorisées. On va essayer de décrypter un petit peu certains de ces grands points. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On va parler de ce qui se passe en Tunisie en ce moment. Oui, c'est donc en Tunisie qu'on part, et plus précisément autour de la ville de Gabès. Gabès, qui est sur la côte à l'est de la Tunisie, au cœur d'une région industrielle, et c'est autour de l'usine de phosphate de cette ville que le nombre d'intoxications explose, et la colère aussi. Des usines dans cette région industrielle, donc autour de Gabès, produisent des engrais à base de phosphate. Ceux-ci sont destinés à l'agriculture intensive. Ce complexe vieillissant donc de Gabès pollue ainsi la mer, l'air et empoisonne la population depuis des années. Il a d'ailleurs déjà été contesté par le passé. Eh bien, en mars dernier, le gouvernement tunisien a décidé de quintupler la production d'engrais, ce qui a provoqué une augmentation justement de la pollution locale. Les plages sont noires, l'air saturé de gaz toxiques. Et ces dernières semaines, des centaines de cas d'intoxication ont été signalés, en particulier notamment des problèmes respiratoires chez les enfants. Cette pollution a aussi altéré l'activité de la pêche, freiné l'agriculture et également compromis toute possibilité de développement touristique pour cette région. Depuis plusieurs jours, donc, la population se soulève, affrontement avec la police, manifestations autour de l'usine, protestations devant le siège de l'industrie chimique. Et dans ces affrontements, les supporters ultras sont en première ligne, comme lors des printemps arabes. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi dernier, le soir, jusqu'aux abords du groupe chimique tunisien, le GCT, dans la ville de Gabès, sous les cris de « Le peuple veut le démantèlement des usines ». Face à ces personnes manifestant, donc les grands bâtiments de transformation de phosphate, ceux-ci ont vite été dissimulés par un nuage opaque, non pas de leur propre fumée, mais cette fois-ci des gaz lacrymogènes tirés en quantité par la police. Jamais depuis le début des manifestations dans cette grande ville du Sud, qui ont débuté le samedi 11 octobre dernier, jamais la foule n'avait été aussi dense. La veille d'ailleurs, le mardi donc de la semaine dernière, à quelques encablures de là, plus de 120 personnes avaient été intoxiquées, dont de nombreux adolescents qui étaient en classe dans leur collège de Chott et Salem. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux en montrant des jeunes gens inconscients. Ils ont carrément perdu conscience, portés à bout de bras par les pompiers ou transportés dans des ambulances avec des masques à oxygène sur le visage. Donc dans leur collège, leur propre collège, ils ont été intoxiqués par les fumées des usines voisines. Excédés par l'absence de réaction des autorités, donc les habitants de Gabès exigent la fermeture du complexe chimique. Sur Internet, les Tunisiens marquent désormais leur indignation au niveau national avec le hashtag « Nous sommes tous Gabès ». Il s'agissait du deuxième incident de ce genre dans ce collège en moins d'une semaine, et c'était la dernière d'une longue liste d'intoxications que les habitants imputent à des fuites de gaz. Pour ce qui est des manifestations donc, et des échauffourées qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, donc entre le 17 et le 18 octobre, des dizaines de personnes ayant participé à ces manifestations nocturnes ont été arrêtées, selon un avocat et un collectif anti-pollution. Alors que les manifestations de la journée ont été largement pacifiques, celles qui se déroulent la nuit ont parfois donné lieu à des affrontements avec les forces de sécurité et à des incendies de pneus, précisait l'avocat des arrêtés à l'AFP, sans pouvoir chiffrer le nombre d'arrestations. Alors, selon le coordinateur du collectif local Stop Pollution, ce sont environ plus de 100 personnes qui ont été placées en garde à vue ce samedi matin. La police a arrêté, dit-il, plus de 70 personnes rien que la nuit dernière et d'autres à l'aube, en notant que certaines ont été cueillies chez elles, suite certainement à l'identification, notamment sur les vidéos qui circulent. Les manifestants, je vous l'ai dit, accusent cette usine d'empoisonner les sols, les eaux et les habitants de la région. Et la colère ne retombe pas puisque ce mardi, ils avaient organisé une grève générale et une manifestation pour demander son démantèlement. Et ça continuait aussi aujourd'hui même. C'est donc la première vraie mise à l'épreuve du président autoritaire et on peut rajouter raciste, Kais Saied, depuis longtemps. Celui-ci règne en effet par une répression féroce depuis des années. Il fait désormais face à un mouvement populaire massif qui est largement soutenu par la population. Si on parle de ses réactions, il a quand même prononcé un discours assez mielleux à la télévision tunisienne et assez ironique puisqu'il a salué la population valeureuse de Gabès qui fait face avec courage à ceux qui cherchent à instrumentaliser sa douleur. Donc là, l'ennemi n'est plus les fumées, mais ceux qui instrumentaliseraient la douleur. Entendez, donc ceux qui font peut-être des exactions ou qui s'énervent un petit peu. Et il a dénoncé, là, comme on a l'habitude de le faire souvent dans ces cas-là, les forces étrangères. Un récit complotiste qui vise à assimiler les révoltes à des opérations guidées par des puissances ennemies, que du déjà vu souvent dans les régimes autoritaires qui ne tiennent plus qu'avec ces contre-discours. Le président a même dans son discours parlé du lien indéfectible entre le peuple tunisien et ses forces de sécurité qui réprimaient au même moment la population de Gabès. Des mots creux, voire même franchement insultants, des probables sanctions symboliques contre les industriels suffiront-ils tout cela à calmer la révolte qui gronde en Tunisie ?
Les révoltes, tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Allez, puisqu'on est dans la pollution, une bonne nouvelle peut-être enfin pour l'Amérique centrale et l'environnement. Après une vingtaine d'années à exploiter un territoire à la biodiversité rare, c'est le géant pétrolier Perenco qui a quitté le Guatemala cet été. C'est dans le journal du Monde qu'on a pu lire ça et ça a été repris dans une brève du journal Reporter. Situé au nord du pays, hein, contre la frontière avec le Mexique, c'est le parc national Laguna del Tigre qui accueille en effet la plus grande zone humide d'eau douce de toute l'Amérique centrale. Du haut de ses 340 000 hectares, hein, c'est une des 10 aires de la réserve de la biosphère Maya, des marécages, des forêts tropicales, des mollusques d'eau douce. Cette réserve du Laguna del Tigre offre une variété précieuse d'organismes vivants. Mais elle abritait aussi un gigantesque gisement pétrolier qui a été découvert dans les années 80, très vite exploité par la compagnie Basic Resource, qui a été depuis rachetée en 2001 par le géant franco-britannique Perenco. Oui, ce sont des pétroles français. Si la récente décision du Guatemala donc de ne pas renouveler cette concession a entraîné la joie des militants écologistes locaux, le coût des dommages environnementaux portés par l'État reste encore évalué. En quittant le Guatemala, la compagnie pétrolière a notamment laissé toutes ses installations sur place, dont le démantèlement, rien qu'à lui, est estimé à au moins 50 millions de dollars, soit 43 millions d'euros.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on parle d'argent, on va s'intéresser maintenant au budget 2026 de la France, avec quelques mesures détaillées dans les colonnes du journal Basta, bastamag.net, je crois, des mesures défavorables plus modestes. On commence par la santé avec pas d'argent pour l'hôpital, hein, c'est ce qui est prévu, puisque l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est l'ONDAM dans son petit acronyme, n'augmenterait pour l'année suivante que de 2,1%, même moins, hein, 1,6%, une fois qu'on a déduit la hausse des cotisations employeurs de retraite. En fait, cette hausse est finalement une baisse des moyens, puisque le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et l'inflation, tout ça fait grimper de manière automatique les dépenses de santé d'environ 4% chaque année. Et donc, je vous le répète, pour l'hôpital, c'est 2,1 voire même 1,6% qui est prévu pour l'année prochaine. Ça fait donc une diminution. Et en plus de ces économies qui sont inscrites donc dans l'ONDAM, l'ensemble des coupes qui sont réalisées sur l'assurance maladie atteindrait, elle, 7 milliards d'euros dans le budget Le Cornu, ce qui fait plus que dans celui présenté par François Bayrou, qui était, lui, chiffré à 5,5 milliards d'euros. Voilà pour l'hôpital. Si on reste sur les soins et le côté remboursement, c'est le doublement du reste à charge qui va aussi peser très fort. En effet, dans le nouveau loi de finances est prévu le doublement des franchises médicales et de la participation forfaitaire. Ce sont des choses que vous ne payez pas ou que vous voyez un peu peu quand vous vous faites soigner. Concrètement, donc, ça signifie une augmentation du reste à charge pour les patients. En première ligne, évidemment, les plus fragiles, notamment les personnes âgées ou qui nécessitent des soins réguliers du fait de maladies longue durée. Par exemple, s'il vous restait 3 euros à payer pour une boîte de médicaments remboursée par la Sécu à la pharmacie, votre reste à charge désormais sera de 6 euros. C'est la même logique de doublement pour les actes paramédicaux et pour le transport sanitaire. À noter que les personnes qui souffrent d'affections de longue durée, ce sont celles qui sont particulièrement visées par diverses mesures présentes dans ce budget. Et en plus, si on regarde, hormis les taxes, enfin les frais de soins, il y a le côté impôt aussi qui est venu s'ajouter là-dedans, puisque ces profils pourraient désormais devenir imposables. Jusqu'à maintenant, les indemnités journalières qui sont versées quand on souffre d'une affection de longue durée, eh bien ces indemnités étaient exonérées d'impôts pour toutes les personnes qui relevaient de la liste des 30 affections établies par le ministère de la Santé. Par exemple, les cancers, les diabètes de type 1 et 2. Eh bien, dans le nouveau plan de budget, ces exonérations vont être supprimées. Et il est rappelé aussi que l'augmentation justement de ces maladies chroniques fait que de plus en plus de personnes bénéficiaient justement de ce dispositif. Le gouvernement estime ainsi que 26% de la population pourrait y avoir droit d'ici 2035. Voilà pour le côté maladie. Si on s'intéresse aux prestations sociales et aux retraites, eh bien c'est le gel, hein, conformément à la volonté initiale de l'ancien Premier ministre François Bayrou. Sébastien Lecornu présente un budget avec une année blanche pour tout ce qui est prestations sociales, notamment les allocations familiales, le RSA, la prime d'activité, les APL et des pensions retraite. Et on rappelle que le taux de pauvreté aujourd'hui en France est à son plus haut niveau depuis 30 ans. Du côté de la fonction publique, 3119 postes de fonctionnaires devraient sauter en 2026. Les principales coupes seront effectuées en interne, dans les opérateurs et les agences de l'État, qui œuvrent souvent notamment pour la santé ou l'alimentation, par exemple. Le reste des réductions de postes fera, lui, elle, au sein des caisses de sécurité sociale. Et du côté de l'éducation nationale, le ministre annonce 5440 postes d'enseignants qui vont être créés, alors que le syndicat SNES-FSU estime le besoin actuel à plutôt 9000 postes, et dans le même temps, 4018 postes sont supprimés dans l'éducation. Donc voilà, un bilan pas net, mais presque, alors qu'il faudrait sérieusement augmenter les moyens. On continue avec le logement, hein. Les moyens du logement social sont de nouveau attaqués, avec une baisse de 900 millions d'euros de cette enveloppe qui est dédiée au logement social, notamment des mesures restrictives qui touchent aux APL, à la rénovation énergétique ou encore au désengagement de l'État du Fonds national d'aide à la pierre, qui était déjà fortement menacé. On peut parler de l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, celle qui distribue justement les subventions pour la rénovation notamment. Eh bien, celle-ci verrait aussi sa dotation baisser de 500 millions d'euros. Pour ce qui est des APL, qui sont gelées en 2026, comme les autres prestations, je vous l'ai dit, elles pourraient être définitivement retirées aussi aux étudiants étrangers non boursiers originaires de pays hors de l'Union européenne. Vous avez compris qui était visé, et finalement, ça va représenter peanuts au niveau financier, mais ça fait toujours plaisir aux électeurs d'extrême droite. Et enfin, et là on est concernés nous directement, et certainement vous aussi, des plans sociaux sont à prévoir dans le secteur associatif. Puisque les coupes budgétaires qui portent sur le financement des collectivités territoriales seront peut-être moins élevées que prévues dans le budget Bayrou, mais de très peu, elles vont quand même avoir lieu. Donc ça fait par répercussion beaucoup moins d'argent disponible pour les associations. Donc comme du précédent budget Barnier, ces coupes devraient avoir pour conséquence la poursuite des plans sociaux dans le monde de la culture, de l'associatif et du soin. Les taxes, enfin, sur les titres de séjour et la suppression d'abattement, en fait, là aussi, pareil, sont visés les demandeurs d'asile, hein, principalement, avec une mesure qui rapportera seulement 160 millions d'euros, mais qui permet, là encore, de donner des gages à l'extrême droite. Par exemple, ce budget 2026 prévoit d'augmenter les taxes payées par les étrangers lors de leurs démarches administratives.
C'est normal, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Allez, on passe après la tempête budgétaire à la tempête, la vraie. Benjamin, j'ai envie de l'appeler, qui souffle en ce moment même des grosses rafales sur tout le département et sur de nombreux départements de France. 19 départements plus exactement sont placés en vigilance orange, car les rafales de vent ont pu atteindre 140 km/h déjà dans la matinée. Plusieurs départements sont également placés en vigilance vague submersion, donc ceux qui ont un bord de mer, tandis que d'intenses précipitations pendant plusieurs jours font craindre la survenue d'inondations. L'intensité de cette tempête, donc, elle est exceptionnelle pour cette période de l'année, et plusieurs météorologues estiment justement que ce phénomène pourrait se transformer en bombe météorologique. C'est un terme qu'on entend fréquemment maintenant dans les médias. On peut citer un autre exemple qui a eu lieu de cette fameuse bombe météorologique, c'était la tempête Ciaran, qui a causé des dégâts mortels en France il y a 2 ans. C'est un terme qu'on utilise pour parler d'événements météorologiques explosifs, et ceux-ci ont tendance à s'intensifier avec le changement climatique. 3 points donc, pour expliquer tout cela avec un climatologue. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bombe météorologique? C'est un terme donc, qui désigne des dépressions atmosphériques. C'est ce qu'il y a souvent quand il y a des tempêtes, hein. Vous connaissez le thème des pressions, donc une pression moindre que la pression partout, comme un vide, et la pression chute de manière particulièrement rapide. C'est par exemple une perte d'au moins 24 hectopascales en 24 heures. Et bien cette chute de pression a pour conséquence de faire tourner l'air très rapidement autour de ce creux, c'est-à-dire de générer des vents violents, un peu comme un tourbillon, quoi. Bon, on n'en est pas à la tornade non plus, mais c'est ça le principe. Et autour du point de la dépression, eh bien, ces deux milieux très différents, hein, les deux pressions fortes et faibles, se mélangent en faisant des tourbillons comme un peu dans le fond de l'évier. Et une bombe météorologique ne vient pas spontanément, hein, elle nécessite l'existence d'une tempête mère, c'est-à-dire on est déjà sur des basses pressions, qui vont s'intensifier au contact de deux phénomènes qui vont lui fournir de l'énergie et provoquer donc ces mouvements d'air brutaux, ces grosses rafales de vent qui peuvent être très dangereuses, notamment rien qu'en faisant tomber des arbres ou des grues à côté de chez vous. En premier lieu de ces deux phénomènes, c'est l'arrivée dans une zone chaude et humide en surface. Ça va faire monter l'air et baisser la pression. Le deuxième facteur, c'est la présence en haute altitude dans le ciel de cisaillements, des vents de force et de direction différentes. Tout cela va alimenter la tempête en énergie cinétique. Ça, c'est pour le côté vent. Maintenant, si on s'intéresse au changement climatique, comment celui-ci intensifie ces tempêtes? Eh bien, le réchauffement de la planète apporte de l'énergie supplémentaire à ces phénomènes. En conséquence, c'est l'ensemble de l'Europe qui pourrait être confrontée à des tempêtes plus intenses à l'avenir sous l'effet du changement climatique, d'après le dernier rapport du GIEC. Même si les projections sont encore entourées de fortes incertitudes, puisque c'est bien de chaos climatique justement que l'on parle et que le chaos est par définition très difficile à prévoir. On peut voir une évolution d'ensemble, mais de là à dire justement quand et comment ça va se passer, c'est très compliqué. Il faut en réalité différencier 2 types de conséquences du réchauffement, soit sur les précipitations, la pluie, la neige, etc., ou le vent. Concernant la pluie, les précipitations... L'intensification à venir, elle est claire et simple à comprendre, puisque mécaniquement, dès qu'il fait un peu plus chaud dans l'air, ça permet de contenir à celui-ci 7% d'humidité en plus. Nous, on est à côté de la Méditerranée, la France est cernée par un océan, une mer méditerranée, on est dans un endroit qui réchauffe, donc on est en plein cœur de ce phénomène de casserole là, qui s'évapore. C'est une loi de la thermodynamique qui implique donc une hausse à venir de l'intensité des pluies, puisque s'il y a plus d'eau dans le ciel, forcément... Il en retombe plus dès que les conditions de condensation sont réunies. D'ailleurs, le projet européen Climameter, il mène des études d'attribution qui permettent d'estimer le rôle du changement climatique dans ces extrêmes météo. Il a évalué lors des récentes tempêtes européennes 10 à 20% d'augmentation pour les pluies de ces tempêtes causées par le changement climatique. Pour le vent, vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les données des 40 dernières années disponibles chez Météo France, aucun signal n'indique cette intensification des vents et des tempêtes. Aucun consensus n'existe sur une éventuelle intensification à venir dans la suite, car des phénomènes qui lui sont liés ont des effets contraires sur l'intensité des tempêtes. Donc on n'est pas non plus dans une zone à ouragan, où là c'est vraiment des phénomènes qui sont facilement observables et prévisibles. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est difficile de prévoir ces phénomènes? C'est le troisième point dont on parle, eh bien la science climatique avance. Enfin, quand on ne la détruit pas, qu'on n'enlève pas ses fonds comme aux États-Unis ou qu'on la sous-finance comme en France et ailleurs. Eh bien, cette science, quand elle peut travailler, elle apporte de plus en plus de certitudes sur l'intensification plausible des tempêtes. Ces phénomènes météorologiques comportent une part d'évolution chaotique hein, qui échappe aux modélisations. Des petites variations, par exemple dans la température de l'eau ou dans l'évolution de la végétation, tout ça peut passer entre les mailles des modèles climatiques dont la résolution est forcément limitée, même si elle s'affine, notamment avec les puissances de calcul des ordinateurs. On parle là bien de l'effet papillon, vous savez, un battement d'ailes qui pourrait générer un ouragan de l'autre côté. C'est une métaphore, mais c'est bien de ça dont il est question en météorologie. Et ce n'est pas qu'une question de résolution, c'est-à-dire de la petitesse de l'échelle que l'on regarde. Il y a une dimension chaotique inhérente, hein, d'eau plus importante que ces phénomènes sont extrêmes. Ça, c'est une limite physique à la prévisibilité, on n'ira pas plus loin, même avec les meilleurs du monde. Donc, ce qu'expliquait David Faranda, un météorologue, qui a fourni un petit peu ses explications. Tout cela, en tout cas, explique la difficulté d'établir des prévisions météo très précises, que ce soit à l'échelle de quelques jours, hein, pour anticiper ces fameuses tempêtes comme celles qui arrivent. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les causes, donc le changement climatique, s'aggravent, lui, dangereusement, toujours, ça c'est mesurable, et donc ces symptômes seront de plus en plus catastrophiques, au-delà des incertitudes qui les entourent. D'ailleurs, petite mise à jour, j'ai vu passer sur les réseaux il y a un quart d'heure qu'à l'Aigoual, les rafales étaient à 140 km/h au sommet et les premiers flocons de neige qui sont apparus.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Je termine avec ces prévisions météorologiques et ces petits bilans qui a été fait il n'y a pas longtemps sur un graphique d'études des médias justement et qui s'intéresse à la désinformation climatique. En gros, depuis le mois de janvier, ce sont des associations, hein, Cota Climat, Data for Good ou Science Feedback, qui recensent tous les cas de mésinformation climatique, fake news comme on dit, sur les 18 principaux médias audiovisuels français. Elle montre que des campagnes de désinformation sont récurrentes sur certains sujets. Et en gros, le résumé, on a eu 529 cas de mésinformation climatique détectés sur ces 18 principaux médias audiovisuels au cours des 8 premiers mois de l'année dernière. Donc une mésinformation, ce sont des moments où une personne prononce une contre-vérité sur le climat quand elle est à l'antenne, et ce, sans être contredite par le journaliste en face. On voit sur ce graphique que l'audiovisuel public reste comme malgré tout le meilleur rempart hein, contre cette désinformation climatique. Les grandes chaînes possédées par des millionnaires qui ont visiblement certains intérêts à ce qu'on ne modifie pas pour l'instant le modèle industriel mondial, eux, favorisent à fond les fake news climatiques. 19 narratifs ont été décelés sur ces fake news. Ils sont d'ailleurs, ces 19 narratifs, à l'origine de 80% des fake news comptabilisés, ce qui montre l'intention de certains d'imposer justement ces récits fallacieux dans les médias. Les narratifs invoqués sèment la confusion et parviennent à percer dans le discours médiatique lors de moments politiques spécifiques, par exemple les prises de pouvoir de Donald Trump, pendant les canicules, pendant les débats à l'Assemblée nationale. Sur le graphique, on voit en tête de file Sud Radio, avec un cas de désinformation climatique toutes les 40 minutes. Puis, sans surprise, on a CNews, Europe 1 et RMC. Voilà.
Maintenant, il faut nous écouter.
C'est fini pour les nouvelles du monde. On se donne rendez-vous là. Non, pas la semaine prochaine, je prends des vacances. On se donne rendez-vous donc à la rentrée de novembre. D'ici là, portez-vous bien et sortez couverts.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.